Vous êtes sur RTL.
7h.
RTL Matin, Thomas Hugues.
Bonjour Isabelle Choquet.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
La réforme des retraites est donc sur les rails et les cheminots promettent déjà une grève.
Le rapport remis hier par Jean-Paul Delevoye prévoit la suppression de tous les régimes spéciaux remplacés par un système unique à points. Il recommande aussi entre autres la création d'un âge d'équilibre à 64 ans. Près de 9 Français sur 10 considèrent que François de Rugy a eu raison de démissionner. Résultat d'un sondage BVA pour RTL, l'exécutif ne perd rien en popularité après cet épisode. À suivre également un profil ADN masculin découvert dans l'enquête sur le meurtre d'Estagel dans les Pyrénées-Orientales, la bataille de l'ours dans l'Ariège, les 100 ans du maillot jaune, vous en parliez, avec une interview rare du premier homme à l'avoir porté, un Français. Et puis Algérie-Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est aussi un match de supporters, vous allez l'entendre.
C'est désormais une certitude, c'est bien un Big Bang qui se prépare dans les retraites.
Le commissaire à la réforme Jean-Paul Delevoye a dévoilé hier le rapport qui doit servir de base au projet de loi. L'âge légal de départ est maintenu à 62 ans, mais il préconise la création d'un âge d'équilibre fixé à 64 ans. C'est l'âge du taux plein. Si on part avant, on touche moins. Si on part après, on touche plus. Un système universel à points va être mis en place pour remplacer les 42 régimes actuels. C'est donc la fin des régimes spéciaux et ça passe assez mal chez les cheminots. Reportage RTL de Gauthier de Lombugard.
Cela fait plus de 30 ans que Christophe conduit des trains depuis la gare Saint-Lazare. Mettre fin au régime de départ à la retraite anticipée, appliquer un âge légal à 62 ans pour tous les cheminots,
c'est n'importe quoi. Après,
tout cela n'a aucun sens selon ce quinquagénaire.
C'est illusoire de croire que les gens peuvent travailler jusqu'à cet âge-là. Un certain nombre de nos collègues ne peuvent pas aller au bout de leur carrière, c'est-à-dire qu'ils sont ce que nous on appelle des sortes de machines. Ils n'ont plus le droit de conduire et sont soit placés sur d'autres métiers, soit réformés. Donc expliquer aujourd'hui à des gens qui vont devoir travailler jusqu'à 62 ans alors qu'aujourd'hui déjà, ils sont incapables de le faire jusqu'à plus de 55, c'est n'importe quoi.
Certains syndicalistes dénoncent une nouvelle attaque contre le statut des cheminots. Bruno Poncet, secrétaire fédéral de Sudrail.
On met encore en avant les cheminots, soit disant qu'on aurait des privilèges et qu'en fin de compte, on partira à la retraite presque à 35 ans, entendent les gens. Sauf qu'en fin de compte, cette réforme de retraite, elle va nous impacter fortement parce qu'entre l'âge de décote, l'augmentation des cotisations salariales et la baisse des pensions, pour nous, c'est une triple peine.
Le rapport de Levoix préconise également que la pénibilité qui permet de partir plus tôt soit étendue aux salariés des régimes spéciaux, notamment ceux de la SNCF, insuffisant selon les syndicats qui envisagent une action de grande ampleur dès la rentrée.
Reportage RTL de Gauthier de Lombugard.
Et Jean-Paul Delevoye répondra aux cheminots dans 40 minutes tout juste sur RTL. L'information de la nuit, c'est cette attaque contre le domicile de François de Rugy à Orvault près de Nantes.
La façade a été taguée, de Rugy escroc, on te fera payer, c'est ce que dit le message signé du sigle PCM, le parti communiste maoïste qui a revendiqué l'opération par courriel. L'ex-ministre de la transition écologique est devenu une cible depuis les accusations de Mediapart sur son train de vie, accusations qui l'ont poussé à la démission et selon notre sondage BVA pour RTL Orange et Les Échos, il n'y avait rien d'autre à faire, Vincent Derosier.
Oui, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Français ne regretteront pas François de Rugy. 88% d'entre eux estiment que sa démission est une bonne chose. Sa cote de popularité s'est effondrée de 6 points. Et même parmi les sympathisants La République En Marche, ils sont plus de 8 sur 10 à estimer que sa place n'était plus au gouvernement. Pour Édouard Philippe et Emmanuel Macron, en revanche, pas de sanctions. L'an dernier, avec l'affaire Benalla, ils avaient perdu 5 points de popularité. Cette fois-ci, les Français semblent ne pas les tenir pour responsables, d'après Adélaïde Zulpi-Karpassic, directrice de BVA Opinion.
Notre enquête montre que l'impact de l'affaire de Rugy est très contenu dans l'opinion, puisque la popularité du président de la République, tout comme celle du Premier ministre, ne perd qu'un point. Donc a priori, l'exécutif a bien géré la crise.
Et pas d'enthousiasme non plus pour Elisabeth Borne. Seuls 4 Français sur 10 pensent qu'elle fera de l'écologie une priorité. Mais les sympathisants de droite et les écolos sont plus nombreux que la moyenne à lui laisser le bénéfice du doute. Des chiffres à prendre avec précaution puisqu'Elisabeth Borne reste totalement inconnue du grand public.
Vincent Derosier du service politique d'RTL. À l'étranger, un regain de tension entre les États-Unis et l'Iran. Washington affirme avoir abattu un drone iranien dans le détroit d'Ormuz parce qu'il s'était approché d'un navire américain. Cela dit, le chef de la diplomatie iranienne affirme n'avoir aucune information à ce sujet. En France, une avancée dans l'enquête sur le meurtre d'Estagel dans les Pyrénées-Orientales. Des traces ont été identifiées sur le corps de Priscilla, cette jeune handicapée de 18 ans dont le corps a été découvert dans le cimetière il y a une dizaine de jours. Des traces génétiques, Cindy Hubert.
Absolument, les expertises ont enfin parlé. Un ADN a pu être isolé, un ADN masculin. Alors cet ADN est-il celui de l'homme qui a tué Priscilla après l'avoir agressée sexuellement? C'est ce que tentent d'établir les enquêteurs, même si pour l'instant, cette empreinte génétique ne donne rien, elle ne matche avec aucun fichier. La justice n'est donc pas encore capable de mettre un nom sur le suspect, mais une information judiciaire a été ouverte mercredi, ce qui veut dire qu'un juge d'instruction va être nommé pour travailler sur ce dossier. La tâche s'annonce difficile, puisqu'aucune piste d'enquête ne s'impose à ce stade, selon nos informations, 12 jours après le drame.
En février, l'incendie d'une boulangerie à Lyon avait coûté la vie à une femme enceinte et à son enfant de 4 ans. Aujourd'hui, les deux gérants sont mis en examen. Ils sont soupçonnés d'avoir organisé l'incendie de leur boutique pour toucher les primes d'assurance. Dans l'Est, la maman d'une petite fille d'un an décédée le mois dernier à l'hôpital de Strasbourg a déposé plainte ces jours-ci. Une enquête est en cours sur d'éventuelles défaillances dans la prise en charge de l'enfant.
Une pause dans ce journal sur RTL dans un instant.
RTL Matin.
RTL 7h06, la suite du journal Isabelle Choquet et vous Thomas Hugues.
Situation plus que tendue dans les Pyrénées et en Ariège, la présence des ours échauffe les esprits.
Il y a deux jours, la voiture de deux agents de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage a été incendiée à Auzat en Haute-Ariège. Ils venaient juste de procéder à une expertise après la mort de trois brebis. Ce n'était pas une première, nous dit Nicolas Alban, le délégué régional de l'Office.
C'est un incendie qui arrive après une suite d'incidents, des pneus crevés, des pare-brises fracassés et puis des poubelles déversées de nos locaux. Les agents de l'ONCFS effectuent des constats de dégâts qui permettent aux éleveurs d'être indemnisés des dégâts qu'ils subissent. Il est assez incompréhensible qu'ils soient la cible d'anti-ours alors même qu'ils sont là pour aider les éleveurs.
En face, il y a effectivement des éleveurs à cran qui estiment que les agents de l'Office de la Chasse sont jugés partis. Écoutez Philippe Lacube, il est le président de la Chambre de l'Agriculture de l'Ariège.
Dans la montagne, on les appelle les cow-boys. Après, l'ONCFS, elle a des problèmes avec d'autres mondes que le seul monde des agriculteurs. C'est que la montagne des gueules d'ours, on ne peut plus continuer comme ça. On va arriver à des catastrophes humaines, vers des gens en vacances, ou vers des bergers, ou vers des gardes. Il y a trop d'ours aujourd'hui dans les Pyrénées et dans l'Ariège.
Propos recueillis pour RTL par Sinamir.
Et on reste dans les Pyrénées, sur la route d'Outou, une autre bagarre entre les coureurs cette fois.
RTL, Tour de France 2019.
Et sur le tour hier, c'est le Britannique Simon Yates qui l'a emporté à Bagnères-de-Bigorre. Aujourd'hui, contre la montre individuelle à Pau, Julien Alaphilippe partira en dernière position puisqu'il est toujours porteur du maillot jaune. Un maillot qui fête ses 100 ans aujourd'hui exactement. Le tout premier a été remis le 19 juillet 1919 à Grenoble au Français Eugène Christophe. C'était au café de l'ascenseur à 2h du matin car à l'époque, les étapes étaient tellement longues qu'on donnait
c'est
le départ
dingue.
De nuit.
Ouais.
En 1957, à 71 ans, Eugène Christophe évoquait ce souvenir. Inoubliable.
Ce matin de 19 à Grenoble, 19 juillet, j'ai endossé le premier maillot jaune. C'est donc moi qui ai eu l'honneur, si je n'ai pas jamais gagné le Tour de France, j'ai eu l'honneur de revêtir le premier maillot jaune. J'étais maillot jaune jusqu'à Dunkerque. Malheureusement, sur les pavés de Valenciennes, à Rennes exactement, ce sont les deux fourreaux de ma fourche qui ont cassé. J'avais exactement 33 minutes d'avance. Il n'y avait plus que 500 km à faire. Nous n'étions plus que 11 coureurs dans le Tour de France. Je ne pouvais plus être battu. Et malheureusement, j'ai donné un maillot jaune le lendemain à Lambeau pour aller inscrire son nom en tête du Tour de France. Et moi, j'ai pu terminer le Tour de France que troisième seulement.
Eugène Christophe, premier.
Ils n'avaient pas le droit de changer de vélo, évidemment, à l'époque. Hein. Ben ils réparaient eux-mêmes. Hein.
C'était pas comme ça. Ouais. C'était une autre époque. Ouais. Eugène Christophe, donc le premier porteur du maillot jaune en 1957 sur la radio La Chaîne Parisienne. Ouais. C'est le correspondant d'RTL à Grenoble, Serge Puyot, qui nous a déniché cette pépite.
Merci Serge. Le sport aujourd'hui, c'est aussi le foot, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Algérie-Sénégal.
Après les débordements de dimanche, 2500 policiers sont mobilisés à Paris, notamment dans le secteur des Champs-Élysées. À Lyon, certains axes du centre-ville seront interdit à la circulation dès 19h. Gros dispositif aussi à Marseille. Et puis à Montbéliard, dans le Doubs, un couvre-feu est instauré dès 22h dans plusieurs quartiers. Cette finale se joue au Caire. Et sur place, l'ambiance est plutôt à la fête. Reportage du correspondant d'RTL, Karim Bald.
Quelques dizaines de supporters, suffisants pour mettre l'ambiance pendant l'ultime entraînement des Fenech. Parmi les Algériens présents en tribune, Karim arrive tout juste de Paris. Une fois sorti de l'aéroport, le jeune homme est venu apercevoir ses idoles, valise en main.
Moi je suis heureux, moi. Je vois des gens que je vois à la télé tous les jours. Je suis fan d'eux et là ils sont en face de moi. C'est impressionnant. Ce qui est beau, c'est que cette ferveur elle se transfère à travers les pays, pas seulement qu'en Algérie.
Une ferveur ressentie par les joueurs et notamment Rami Ben Sebaïni.
Pour moi perso, ça représente tout parce qu'on est là pour représenter un peuple, un pays, et de la gagner c'est vraiment quelque chose.
Beaucoup d'émotions côté algérien en cette année de bouleversement politique. Beaucoup d'attentes aussi chez les Sénégalais. Les Lions de la Teranga visent un premier titre de champion d'Afrique emmené par leur sélectionneur Aliou Cissé.
Beaucoup de déceptions, beaucoup de désillusions, beaucoup de larmes. Aujourd'hui, je crois que nous y sommes et nous ne comptons pas s'arrêter seulement à une finale. Nous voulons plus que ça.
Aliou Cissé avait manqué son tir au but lors de la finale 2002. 17 ans plus tard, ce sera peut-être la bonne pour la génération Sadio Mané.
Karim Baldo, Caire pour RTL. Le foot, c'est aussi la EA League 1 Games qui a débuté cette nuit à Washington. Saint-Etienne a battu Montpellier 4-2 et Marseille l'a emporté 2-1 sur Bordeaux. Un doublé de Dimitri Payet pour l'OM. On aura donc une finale Marseille-Saint-Etienne dans la nuit de dimanche à lundi. Dommage que ce ne soit pas de la Ligue des Champions. Hein.
Oui, ça effectivement, on peut toujours rêver. Isabelle Choquet pour l'information sur RTL. On vous retrouve à 8h.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.